Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le pontificat de Benoît XVI s'achève dans moins de 10 jours. L'heure est donc au bilan, mais aussi aux pronostics et aux spéculations. Certains pensent que ce pape s'est retrouvé parfois un peu seul, malmené ou incompris par les médias, et qu'il n'a peut-être pas trouvé dans son entourage les soutiens dont il aurait eu besoin. Analyse et commentaires dans ce magazine. L'Église catholique est entrée en carême, temps propice aux actions de partage et de solidarité. Tout le monde ne sait pas qu'il existe des initiatives concrètes d'aide au développement dans les pays du Sud. Le moment est donc bien choisi pour les découvrir. Dans ce magazine, vous entendrez le journaliste et écrivain Bernard Lecomte. Vous entendrez également le responsable du pôle Amérique latine du CCFD, Terre solidaire. La retraite de carême se poursuit au Vatican. Benoît XVI et les membres de la curie romaine participent aux exercices spirituels prêchés cette année par le cardinal Gianfranco Ravasi, président du Conseil pontifical de la culture, qui se retrouve en cette fin de pontificat sous le feu des projecteurs. Les méditations ont pour thème « Ars orandi, ars credendi », le visage de Dieu et le visage des hommes dans la prière des psaumes. À l'extérieur de la chapelle Redemptoris Mater, où le pape et ses collaborateurs prient et méditent, le climat reste d'autant plus fébrile que le contexte de l'imminent changement de pontificat apparaît fluide et imprévisible. Du coup, les langues se délient tandis que les hypothèses folles ou crédibles se multiplient et la presse s'en fait largement l'écho. Olivier Bonnel.
Benoît XVI achève une gouvernance mouvementée, jalonnée de nombreuses crises, du discours de Ratisbonne au scandale de Vatilix, en passant par l'affaire Williamson. Ce pape aura passé beaucoup de temps et dépensé bien des énergies à tenter de colmater les brèches. Nombreux sont ceux lui reprochant des erreurs dans le choix de ses plus proches collaborateurs, sa difficulté à résoudre les situations conflictuelles, cette réserve qui n'est plus de mise dans une société médiatisée. Des observateurs proches du dossier, pour employer la formule consacrée, jugent plutôt qu'il n'a pas été aidé, soutenu, par ceux-là même qui auraient dû le faire. Absence de coordination, dysfonctionnement, magouilles et compromissions, rivalité, incompétence et négligence, la curie romaine est ces jours-ci sous le feu des critiques. À plusieurs reprises, le directeur du bureau de presse a dû rappeler que Benoît XVI ne quittait pas sa charge à cause de ses défaillances en cascade, mais bien en raison de son âge et de sa fatigue. S'il n'est pas parvenu à redresser la barre, ce pape laisse toutefois un héritage d'une richesse inestimable. Ses textes, homélies, encycliques ou ouvrages. En dépit des tempêtes qui ont secoué son pontificat, Benoît XVI n'a jamais cessé d'enseigner, il l'a fait admirablement avec une finesse et une profondeur qui ont marqué les esprits. Son souci de purifier l'Église, il l'aura réaffirmé jusqu'au bout. Dimanche encore, il exhortait l'Église à se renouveler et à se réorienter de manière décidée vers Dieu en reniant l'orgueil et l'égoïsme.
J'ajoute que le cardinal Christoph Schönborn, archevêque de Vienne, a affirmé que la curie devait être au service du pape et ne pas se substituer à lui. Le pontificat de Benoît XVI n'aura donc pas été épargné par les polémiques et scandales en tout genre, largement relayés et amplifiés par les médias qui en auront été parfois les premiers acteurs. Les violentes controverses autour du discours du pape à Ratisbonne en 2006, de ses propos sur le préservatif, de l'affaire Williamson, de l'annonce de la béatification de Pie XII sont en effet les fruits de malentendus, de raccourcis malheureux, de simplifications et de mauvaises interprétations, conséquence d'une mauvaise interaction entre le pape et les médias du monde. Tel est en tout cas l'avis de Bernard Lecomte, journaliste et écrivain, spécialiste de la papauté contemporaine. Bernard Lecomte est l'auteur, chez des Clés de Brouwer, d'un ouvrage intitulé « Pourquoi le pape a mauvaise presse ?»
À chaque fois, on se rend compte que ça ne colle pas entre les médias et le pape. Et j'entends préciser que c'est réciproque, c'est-à-dire que le pape lui-même, le Vatican, a du mal à s'adapter aux médias modernes, mais que les médias eux-mêmes ont du mal à accepter que le pape soit un interlocuteur comme les autres. Après tout, c'est une institution qui pourrait être traitée comme un État, comme une grande, comme l'ONU ou que sais-je. Eh bien non, il y a un double malentendu entre le pape et les médias.
Vous parlez clairement d'une réciprocité dans le malaise. Est-ce qu'on pourrait aussi parler d'un acharnement des médias ?
Moi, je ne parlerai pas d'acharnement des médias. Je dirais que l'évolution des médias a provoqué, par exemple, dans nos pays, une inculture religieuse qui est absolument fascinante. Aujourd'hui, 90% des journalistes ne savent pas la différence entre un sunnite et un chiite, entre le Talmud et la Torah, entre un conclave et un synode. Donc cette inculture, évidemment, forme un terreau qui est très négatif. Il y a aussi la tendance laïciste qui fait que beaucoup de lobbies, de groupes sont à l'affût de la moindre faute, de la moindre faiblesse et se précipitent comme dans un combat de boxe. Et puis troisièmement, plus important encore, l'évolution de la société vers un individualisme systématique qui provoque naturellement un relativisme, un nihilisme dans l'information. À partir du moment où les médias sont viscéralement contre toute morale collective et contre toute institution, bien évidemment, leur première cible, c'est l'institution la plus grande et la plus ancienne du monde, qui est l'Église, et particulièrement leur chef.
Ce n'est donc pas tant la personne de Benoît XVI qui est visée que sa fonction et tout ce qu'il représente.
Alors, il est vrai que Benoît XVI n'était pas un homme de communication, comme l'avait été Jean-Paul II. Il est vrai que la Curie et le Vatican en général n'a pas été formé à l'évolution des médias d'aujourd'hui. Il faut voir peut-être le bon côté des choses. Ces affaires, ces scandales sous le pontificat de Benoît XVI ont quand même, je crois, poussé beaucoup de cardinaux, d'évêques et de responsables de la Curie à écouter un peu les rares hommes de communication qui existent au Vatican, hein, du côté de Radio Vatican, du côté de l'Osservatore Romano, etc. Et je vois évidemment que on commence à prendre en compte tout ça et qu'il va peut-être y avoir un certain nombre de progrès de fait. Disons que le successeur de Benoît XVI aura peut-être moins de mal à s'adapter à cette évolution des médias modernes, comme le monde lui-même tourne de plus en plus vite.
Les médias ont brossé dès le départ un portrait peu flatteur du cardinal Ratzinger Benoît XVI. On le voyait comme le grand inquisiteur, le grand conservateur. Est-ce que malgré ça, malgré ses préjugés, est-ce qu'il a pu changer cette image ?
Je vous répondrai à partir de la France. Quand Joseph Ratzinger a été élu pape, tous les médias titraient sur le fait qu'il était conservateur, vieux et allemand. Et puis on a eu ses excès habituels, le Panzer cardinal, vous vous rappelez, le berger allemand, etc. Tout cela était évidemment excessif, mais enfin ça lui a donné une très mauvaise image. Et puis il y a eu le voyage en France. Et vous savez, comme à l'époque de Jean-Paul II, les voyages de Benoît XVI ont toujours été très importants et ont toujours fait bouger les lignes. Rappelez-vous sa visite aux Bernardins face au monde de la culture, rappelez-vous la messe aux Invalides au centre de Paris, rappelez-vous son séjour à Lourdes. Là, les Français, les médias et les Français en général ont découvert en effet un vieux monsieur gentil, timide, très précis dans son propos, je pense notamment aux Bernardins, et son image a été tout à fait différente. Et aujourd'hui, on voit bien dans les sondages ici en France que malgré quelquefois, encore une fois, l'acharnement des médias ou l'agacement des médias parce que voilà, c'est la religion, etc. À part ça, on voit bien que dans l'opinion française, ce pape a une bonne image.
Si vous deviez résumer le pontificat de Benoît XVI pour vous, personnellement, en une phrase.
En une phrase, je dirais que le pontificat de Jean-Paul II a été un pontificat sur la liberté et que le pontificat de Benoît XVI aura été sans doute celui de la vérité.
Bernard Lecomte, interrogé par Manuela à Fiji. J'ajoute qu'après 2 mois et demi d'activité, le compte Twitter du pape Pontifex sera suspendu le 28 février à la fin du pontificat de Benoît XVI. Et le flot des réactions officielles à la renonciation du pape ne tarit pas. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé lundi dans un communiqué que Benoît XVI avait amélioré les relations entre le christianisme et le judaïsme, ainsi qu'entre le Vatican et Israël. Au nom du peuple d'Israël, je vous remercie pour votre action, écrit-il, et pour la défense courageuse des valeurs du judaïsme et de la chrétienté et les racines de notre culture commune. La semaine dernière, le grand rabbin Ashkenaz d'Israël avait lui aussi rendu hommage au pape pour avoir contribué à une diminution des actes antisémites dans le monde. Pour la communauté juive, l'un des acquis les plus importants de Benoît XVI aura été d'exonérer le peuple juif de la responsabilité de la mort de Jésus. Dans un livre publié en 2011, le pape a écrit que l'aristocratie du temple à Jérusalem et les masses, et non pas le peuple juif dans son ensemble, étaient responsables de la crucifixion de Jésus. Benjamin Netanyahou avait à l'époque déjà salué le courage du pape et plusieurs autres responsables religieux juifs avaient estimé qu'il s'agissait d'une étape essentielle dans la lutte contre l'antisémitisme au sein de l'Église. L'Église catholique est entrée en carême mercredi dernier, temps liturgique de préparation à la fête de Pâques et temps propice aux actions de partage et de solidarité. C'est dans cette perspective que le CCF des Terres solidaires a lancé sa campagne de carême « Il n'y a pas de petite réussite quand l'homme est au cœur des projets ». L'objectif étant de faire découvrir au grand public des initiatives concrètes d'aide au développement dans les pays du Sud, de favoriser ainsi les échanges et d'appeler au soutien de ces projets. Pour nous en parler, Jean-Baptiste Cousin, responsable du pôle Amérique latine du CCFD Terres solidaires.
Pour nous, le carême est un temps important de communication sur ce que fait le CCFD et d'appel à la collecte. C'est un peu le temps que nous réserve l'Église de France pour communiquer sur ce que fait le CCFD. Et alors, au moment où on voit partout des classements mondiaux des hommes les plus riches et les femmes les plus riches, nous, on s'est dit, il faudrait qu'on fasse un classement des entrepreneurs. Alors, des entrepreneurs, on dit des gens qui entreprennent. Or, c'est peut-être pas ceux qui sont les plus riches, mais c'est ceux qui entreprennent. Et c'est pour ça qu'on a décidé un peu de mettre sur le devant de la scène des témoins qui montrent un peu ces gens qui se bougent et qui se lèvent.
Est-ce que vous avez des exemples qui vous touchent, vous, particulièrement? Une ou deux initiatives, une ou deux personnes qui vous touchent par ce qu'elles font et par les initiatives qu'elles prennent?
Alors moi, je vous parlerai de Gracita Ossias, parce que je la connais, je l'ai déjà rencontrée deux fois. J'ai été la voir là-bas en Haïti, chez elle, on va presque dire. Et c'est l'une des personnes que l'on met en valeur. Alors, on dit qu'elle, c'est une entrepreneuse, non pas parce qu'elle est patron, sinon parce qu'elle travaille dans une organisation. Et elle se présente comme le fruit de cette organisation. Elle dit que cette organisation lui a appris qu'il fallait mettre les paysans en association. Actuellement, elle est chargée de programme dans cette association partenaire du CCFD. Et c'est une femme formidable qui parcourt les mornes de Haïti, qui va dans la région justement de Gros Morne, qui est une région où il y a une production de mangues qui sont superbes, mais qui ne sont pas valorisées, alors que Haïti est un pays qui importe près de 80% de son alimentation.
Cette campagne de carême s'inscrit dans la dynamique de diaconat. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Diaconat, c'est le service des frères, c'est une initiative de l'Église de France, le service des frères. Et pour nous, le service des frères, il ne doit pas se penser uniquement localement, dans la paroisse, auprès de ceux qui souffrent en France. Sinon, le service des frères, c'est tous les hommes et tout l'homme. Et donc, pour nous, diaconat, c'est important parce que ça nous permet, à travers la campagne de carême, de dire, le service du frère, c'est ici en France, bien sûr, mais c'est aussi à l'autre bout du monde, avec les partenaires avec lesquels le CCFD Terres solidaires travaille et construit un monde plus juste.
Le responsable du pôle Amérique latine du CCFD Terres solidaires, interrogé par Manuela Afigi. Au Venezuela, un prêtre catholique a été tué par balle par un groupe de malfaiteurs. C'est le quatrième prêtre à être tué en Amérique latine depuis le début de l'année. Le père José Ramón Mendoza, âgé de 44 ans, a été abattu dans la soirée de dimanche alors qu'il était à bord de sa voiture à l'arrêt à un carrefour. Selon la presse locale, il s'agirait d'une tentative de vol qui a mal tourné. L'archevêque du lieu a affirmé que le père Mendoza était un homme de prière, un ministre de Dieu. Monseigneur López Castillo a déploré la violence qui frappe des innocents et lancer un appel au respect de la vie ainsi qu'aux autorités afin qu'elles prennent des mesures pour enrayer la criminalité. Le Venezuela affiche toujours un taux d'homicide parmi les plus élevés au monde, une violence persistante que le gouvernement du président Hugo Chavez a longtemps négligée et que ses opposants ne se privent pas d'instrumentaliser. En 2012, le Venezuela enregistrait plus de 21 000 homicides, soit un taux de 73 pour 100 000 habitants et une hausse de 12 % par rapport à l'année précédente. Il s'agit d'un des plus élevés au monde. On enregistre par ailleurs plus de 600 enlèvements par an, source de financement pour la criminalité. Caracas est considérée comme la capitale la plus dangereuse du monde, loin devant Mexico ou Bogota. Un bateau d'immigrés tunisiens sombre en Méditerranée, naufrage au large de Lampedusa, des titres qui font régulièrement la une de la presse italienne depuis plusieurs années maintenant. L'immigration n'est pas l'un des thèmes principaux des législatives des 24 et 25 février prochains en Italie. Mais dans le pays, des ONG se mobilisent pour éviter de telles tragédies. Parmi elles, le comité 1er mars. Il est né en 2010, en même temps que la grève des étrangers. Au total, 52 villes de la péninsule s'étaient mobilisées pour défendre défendre la libre circulation des immigrés et la mixité face à une Europe qui tente à fermer ses portes. Aujourd'hui, la mobilisation se poursuit à travers les réseaux du comité 1er mars. Cécile Kienge, d'origine congolaise, est la coordinatrice nationale du mouvement.
Chaque année, à partir du 1er mars, on fait une mobilisation. À partir de cette année, les choses ont changé, c'est-à-dire il n'y a pas seulement les étrangers, mais ce sont étrangers italiens. Et surtout, il y a eu aussi les institutions qui commencent petit à petit à suivre ce que nous sommes en train de demander, changer la loi sur l'immigration, essayer de fermer les centres de rétention qui sont un peu partout en Europe et surtout dans la délocalisation dans le nord de l'Afrique, en particulier en Libye, en Tunisie. Il y a eu ces centres qui sont des prisons pour les migrants et nous sommes pour la libre circulation, puisque sans la libre circulation, on aura toujours des morts dans, nous on les appelle les victimes de la politique de la frontière, c'est-à-dire dans la mer et dans les pays de transit.
J'imagine que c'est un combat très difficile aujourd'hui parce que l'Europe tend à totalement fermer ses frontières.
Exactement, mais c'est aussi un contresens puisque l'Europe, c'est le premier continent qui a fait la libre circulation avec le Schengen. Donc ça doit être le premier continent qui devait comprendre les motivations qui l'ont induit à pouvoir faire la libre circulation. On ne demande pas seulement la libre circulation pour l'Europe, mais on demande la libre circulation surtout avec le Méditerranée. L'Europe collabore beaucoup avec tous les pays du nord de l'Afrique. Donc nous, on demande que chaque personne puisse être libre de pouvoir choisir un endroit où aller vivre, que chaque migrant puisse participer à la vie du pays là où il a décidé de vivre, c'est-à-dire à la vie, la participation économique, la participation politique, la participation culturelle. Il y a aussi le fait que les personnes puissent aussi choisir les personnes qui doivent gouverner le pays, c'est-à-dire la participation au vote.
Quelle est leur situation aujourd'hui en Italie? Est-ce que c'est difficile d'être immigré? Quels problèmes rencontrent-ils au quotidien?
Ce qui est grave en Italie est qu'on a eu des politiques qui ont fait croire aux gens que les immigrés, c'est pratiquement le danger. Alors, moi, je crois que du point de vue des institutions, passer un message pareil, c'est assez grave. Puisque normalement, la Constitution italienne parle de pouvoir aider toutes les personnes en difficulté. Et ce sont les personnes qui font la politique, normalement, qui devraient appliquer la Constitution. Mais malheureusement, quand on parle des immigrés, c'est seulement pour induire les gens que les immigrés, ce sont un danger. C'est juste pour faire la propagande politique. Mais la chose qui pourrait quand même faire changer un peu l'idée et les politiques en Italie, c'est la participation des ce qu'on appelle nuovi italiani, des migrants qui ont pris la nationalité italienne dans la politique même. Et ça compte beaucoup dans l'élaboration de certaines lois, dans l'imaginaire aussi de la population, de voir que les immigrés ne sont pas seulement des gens qui créent un danger, mais ce sont des gens qui ont aussi la capacité de penser, qui ont aussi la capacité de voir un peu plus loin. Et ce sont des gens comme que nous sommes tous pareils.
Des propos recueillis par Thomas Chabal. Le comité permanent de la Conférence des évêques de la RDC est actuellement réuni dans un climat de tensions persistantes et d'instabilité en République démocratique du Congo. Trois pères assomptionnistes enlevés au mois d'octobre dernier à Butembo-Beni sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs. La Conférence épiscopale du Congo continue à demander leur libération. Par ailleurs, au début du mois, les évêques du Congo ont encore une fois élevé leur voix pour critiquer la nouvelle composition de la Commission électorale nationale indépendante adoptée par le Parlement. Selon eux, elle ne garantit pas l'indépendance et l'impartialité de cette institution. Ils demandent qu'elle soit composée en majorité d'experts et non pas d'élus. La conférence des évêques d'Allemagne tient ces jours-ci son assemblée plénière de printemps à Trèves, sous la présidence de l'archevêque de Fribourg, Mgr Robert Zollitsch. Au cœur de la réflexion, l'accession des femmes aux postes de responsabilité et la coopération entre hommes et femmes dans la vie et au service de l'Église. Au sein de l'épiscopat allemand, des courants plus progressistes réclament des réformes. Autre thème dominant, le rapport gouvernemental sur la pauvreté et le travail de Caritas. Les 66 évêques allemands doivent par ailleurs débattre de la traduction du Vieux Testament et du Missel romain, de la préparation du congrès eucharistique et des rapports judéo-chrétiens en Allemagne. Des évêques du Nigeria, Paraguay et Bangladesh ont été invités à assister aux travaux. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur Facebook.